Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Les dossiers du journal de Millau en ondes.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus.
Tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, les journalistes du journal de Millau passent du stylo au micro.
J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre, abusé des grands reporters. Des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent les six superpositions de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour des dossiers du journal de Millau sur Radio Larzac. Tous les mois, des journalistes viennent présenter un dossier publié dans le journal de Millau et ce mois-ci, c'est Loïc. Salut Loïc.
Bonjour Sophia.
Notre invité aujourd'hui, c'est Daniel Lecomte. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bonjour Daniel, merci d'accepter ce rendez-vous.
Merci à vous de m'inviter.
Alors, on l'a lu dans le journal de Millau de cette semaine. Vous êtes journaliste passé par Libération, Le Monde et Antenne 2 notamment, avant de troquer votre crayon pour les caméras et monter votre boîte de production Doc en Stock.
Entre-temps, je suis passé quand même à Antenne 2.
Oui, et Arte.
Donc, c'était un bon moment aussi, un long moment de mon activité quand même.
Et justement, vous êtes à Millau pour présenter un cycle de 6 documentaires en partenariat avec le Lions et le cinéma de Millau, dont la première diffusion sera Millau 42, un été meurtrier, le 17 octobre prochain. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce film et comment est-ce qu'il s'est construit ?
Alors, il s'est construit d'abord grâce à Jacques Fressinge, l'archiviste de l'époque, et grâce au lien que nous avions, Jacques Fressinge et moi-même, depuis très longtemps sur d'autres projets qu'on avait travaillé ensemble, en particulier La Belle du Gévaudan qu'on avait fait pour France Culture il y a bien avant. Et donc, au cours d'une conversation, il m'a appris l'existence d'une information qu'il avait découvert en fouillant sur un autre sujet, où il avait exhumé un papier dans lequel qui faisait état d'une visite médicale qui était passée par des Millavois. Et en se penchant sur ce document, il s'est rendu compte que c'est tous les noms en question qui passaient cette visite médicale étaient des noms de juifs à partir de là il a fait une recherche approfondie du sujet et il est tombé sur l'histoire de la rafle qu'il a mise à jour. Alors la rafle, c'était une décision qui avait été prise par le gouvernement de Vichy très vite après son installation, enfin très vite quand même, c'est en 42, mais il y a eu tous les décrets d'aryanisation, il y avait tout ce que Vichy avait mis en place pour ségréguer les juifs après la débâcle. Et donc, quand il a mis en place ce genre de choses, il m'en a informé. Et du coup, quand j'en ai été informé, je connaissais bien cette période de l'histoire. Pour des tas de raisons, à la fois des raisons familiales et puis des raisons, je suis historien de formation, donc c'est quelque chose avec quoi je m'intéressais depuis très longtemps. Et ça me paraissait bizarre qu'il y ait une rafle dans la zone libre. À l'époque, déjà, on avait parlé des rafles en zone occupée, où il y avait la présence de l'armée allemande. Ça pouvait se comprendre, mais des rafles en zone libre, c'était un peu bizarre. Parce que ça voulait dire que c'était des Français. Donc, qui avait raflé d'autres Français. Donc, on ne pouvait pas prendre l'excuse ou le prétexte que c'était les Allemands qui avaient forcé les Français à le faire. Donc, c'était pour moi une découverte. Et j'ai découvert par la suite, d'ailleurs, que la rafle de Millau était la première, parce qu'elle était la première d'une série de rafles qui ont eu lieu pas après, mais il y a eu, au même moment où il y avait cette rafle à Millau, en premier, il y avait d'autres rafles qui ont commencé un peu dans la zone libre. Et donc ça a commencé comme ça. Et à partir de là, j'ai travaillé sur ces documents et j'ai fait le travail d'enquête d'un journaliste classique. pour essayer d'en faire un film.
Justement, dans ce film, vous faites témoigner Shlomo Washbone, alias Simon,
oui.
Que vous êtes allé retrouver en Israël. C'est l'un des survivants.
C'est le seul. Enfin, ils étaient deux.
Comment est-ce que vous avez remonté sa trace?
À partir du moment où il y avait l'état civil des personnes, si vous voulez, j'ai plus à l'époque, alors comment, je ne me souviens plus très bien, mais j'ai dû enquêter, enfin j'ai enquêté en Israël, mais pas sans y aller d'ailleurs à ce moment-là, en demandant à des gens comment je pourrais remonter la trace de Shlomo Weinbaum. Et eux avaient évidemment répertorié, si vous voulez, tous les gens qui avaient fui la France après et qui avaient été des survivants d'Auschwitz, qui était son cas. Et donc, ils m'ont donné l'information et c'est comme ça que j'ai pu le joindre et que je l'ai invité à venir en France. Il était très surpris de ce coup de téléphone et encore plus de l'invitation à venir pour raconter son histoire. Et donc, il l'a fait. Et j'avoue qu'il s'est montré à la fois d'une rigueur, il avait une mémoire absolument extraordinaire des événements, il savait exactement, il se rappelait des gens, des noms des gens, il avait une mémoire des mi-à-voix, de la ville, enfin exceptionnelle, et donc il a été un acteur majeur de ce film.
Donc on rappelle que vous avez tourné ce documentaire entre 1997 et 1998,
oui.
Près de 60 ans après les faits. Je cite, vous dites avec Jacques Fressinge avoir sorti la poussière de sous le tapis. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que ça soit toujours camouflé, entre guillemets, ailleurs, Camillo ? Est-ce que vous
savez ? Sur les rafles ?
Oui.
Ben, je crois pas. Je crois pas parce que, si vous voulez, à la suite de ça, enfin pas simplement mon film, mais quelques autres historiens et quelques autres réalisateurs qui ont travaillé sur ces sujets... On a pris connaissance de l'ampleur du sujet, de l'ampleur de ce problème. Et quand les clarcelles sont là-dessus, vous savez, en général, il ne reste pas beaucoup de poussière sous le tapis. Voilà. C'est des gens qui sont des nettoyeurs, au très bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont investigué là-dessus. Alors, dans le même temps, il y avait eu en France un début de ça. Dans les années 60, avec un film que vous n'avez pas pu connaître parce que vous étiez trop jeune. Mais qui s'appelait Le Chagrin et la Pitié, et qui était un film qui était fait par un extraordinaire réalisateur, qu'il avait fait avec deux autres personnes, et qui a été interdit en France pendant un moment. Et au moment où il est sorti, ça a été une révélation pour les Français, cette histoire, que finalement, par rapport au récit de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été fait pour des raisons de réconciliation et, par De Gaulle, les Français n'étaient pas tous des résistants, loin de là, et c'était plutôt... On était plus proche de beaucoup de collaborateurs et de peu de résistants. Donc, les Français avaient été éveillés à cette histoire, et ils avaient commencé à apprendre qu'il s'était passé autre chose. Mais c'était le début de cet apprentissage. Et mon film est arrivé à un moment, si vous voulez, où déjà, les premiers pas avaient été faits par d'autres. Des précédents illustres, des gens formidables, et moi je me suis mis dans leur pas, et donc j'ai continué leur travail.
Vous avez dit que vous êtes historien de formation, et vous avez aussi beaucoup parlé de mémoire. Quel est le rapport pour vous entre mémoire et journalisme? Elle est souvent une source d'inspiration pour vos documentaires, en tout cas?
Je suis très prudent là-dessus, parce que je préfère l'histoire à la mémoire. Comme je l'ai dit à mes amis, à Thierry et à Loïc, il n'y a pas une infaillibilité des témoins. Les témoins se trompent souvent. Ils ont la mémoire sélective, ils ne retiennent souvent, ce n'est pas de leur faute d'ailleurs, on est tous comme ça. Ils retiennent ou ils embellissent, ou au contraire, ils approfondissent les défauts de leur sujet. Donc la mémoire, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, avec toutes les mémoires concurrentielles, chacun essaye de la plus petite victime aux plus grandes, si vous voulez, d'avoir les mêmes droits à la reconnaissance. Mais la mémoire est souvent galvaudée par des gens qui sont plutôt des militants politiques que par des experts, des gens dont c'est le métier de faire la part du vrai et du faux. Personnellement, je préfère le journalisme quand il n'est pas exercé par des militants. Et je pense que c'est plus sûr, et des historiens. parce que ça répond à des normes scientifiques qui sont l'expertise, qui sont le recoupement, qui sont de plaider à charge, mais aussi à décharge, et de plaider contre soi-même, contre ses propres convictions. Et donc, pour moi, je suis extrêmement méfiant des gens qui parlent des questions mémorielles. Vous voyez, par exemple, sur l'Algérie, aujourd'hui, c'est une blague. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, ça a conduit Macron à faire des erreurs terribles. À qui il avait affaire en Algérie, au régime algérien, il se retrouve maintenant cul par terre, si vous voulez, avec un régime qui nous déteste et qui nous crache dessus. Donc, qui fait alliance avec Poutine, avec des gens comme ça, bon, bref. Et dont il a beaucoup aidé à être reconnu et même, écouté, ce régime, alors que c'est un régime dictatorial. C'est un régime de militaires. Donc, et pourtant, c'est eux qui parlent de l'Algérie et qui donnent le là aujourd'hui sur ces questions-là. Donc je suis extrêmement méfiant des questions mémorielles. En revanche, je suis très, très... Je trouve qu'on ne parle pas assez d'histoire. Au sens où je l'entends, personnellement, et où, me semble-t-il, les vrais historiens et les vrais journalistes devraient l'entendre. C'est-à-dire d'être capable de plaider contre soi-même, d'être toujours méfiant entre ses propres convictions et la réalité qu'on décrit. C'est pour moi une règle d'or. Voilà, que j'ai essayé, tant que faire se peut, sans parfois, moi non plus, être tombé dans... Moi aussi, être tombé dans ces travers, après les avoir eus. Eh bien, j'ai tenu à m'en débarrasser parce que c'est une pente naturelle. On a envie que la réalité, elle soit comme on l'aime. Et pour un journaliste, il ne doit pas faire ça. Et il doit aller à l'encontre de ça.
Donc un moyen aussi pour parler d'histoire et de mémoire, finalement, à travers ce film qui a quand même fait l'objet d'une reconstruction historique, comme vous l'avez dit.
Oui. D'ailleurs, la postface à la réédition de mon premier livre sur la question, sur l'Algérie, je disais ça. Ça se terminait par un chapitre qui s'appelait « Pour l'histoire ». C'était pour moi... Et on voit bien à quel point l'histoire, justement, la mémoire a été instrumentalisée et s'est imposée à la place de l'histoire sur les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Et du coup, on arrive à des aberrations, si vous voulez... Du type, en France, presque du type de celle de Poutine, où il accuse les Ukrainiens d'être des nazis. Ce qui est, enfin, c'est stupéfiant d'entendre des choses pareilles. Alors que moi, je connais bien ces deux pays. J'ai été en Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique. Et je l'ai couvert encore récemment. Enfin, récemment, pour moi, c'est récemment. J'ai fait mon dernier film en 2017, avec le murmure des âmes blessées. Mais bon, y a des gens qui sont extrêmement indulgents avec Poutine, alors que j'ai pu constater que, si vous voulez, le régime russe et avant soviétique étaient des régimes de mensonges organisés. Et donc, d'avoir essayé, a pu répandre cette espèce de folie que les Ukrainiens étaient tous des nazis, c'est une preuve même, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur ces sujets-là.
Et justement, aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur les documentaires avec l'émergence des réseaux sociaux et toutes ces théories qui en ressortent ? Vous, votre regard de journaliste sur tout ça ?
Là, vous allez me rendre encore plus bavard sur ces sujets-là. Bah, je ne voudrais pas redire la même chose que tout le monde, parce que ça prendrait du temps à notre sujet, mais... Oui, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Extrêmement vigilant, d'autant que, si vous voulez, ils ont imposé les réseaux sociaux, une préemption sur l'information qui fait qu'aujourd'hui, tous les médias officiels prennent la route pour pas être distancés par les réseaux sociaux. Et donc, ils sont piégés par eux. Et donc, au bout d'un moment, les médias officiels, ceux qui, enfin, que ce soit la presse écrite... Même la presse audiovisuelle suivent cette pente et on aboutit, si vous voulez, à un nombre incroyable de fake news. Enfin, ça devient astronomique, quoi. C'est-à-dire que les gens n'ont plus accès au réel à cause de ça. Ils ont accès, si vous voulez, à l'émotion, j'allais dire, à la légitimité des viscères, voilà, de l'émotion sur la raison, donc sur les faits.
D'ailleurs, ce thème-là, le complotisme, sera l'objet d'un ciné-débat fin avril, début avril 2024, pardon, avec ce cycle avec les Lions.
Oui, je sais gré d'ailleurs aux Lions et au cinéma de Mio d'avoir retenu ce sujet. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur.
Vous serez présent à chaque diffusion, donc 6 films au long de ce cycle.
Avec plaisir.
Le premier, ça sera le 17 octobre, donc avec Mio 42, Un été meurtrier. Qu'est-ce que vous attendez du débat avec les Miavois?
Je l'ai montré une fois déjà ici dans le collège, dans un collège. Et ça a beaucoup impressionné les enfants, enfin les collégiens, de découvrir ce genre de choses. Ils ont pris un coup sur la tête, parce qu'ils n'imaginaient pas que ça avait existé. Je dois dire que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à prendre la mesure de ce qu'était l'extermination. Et pas simplement des Juifs, mais particulièrement des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et du processus d'extermination. Et qu'on puisse aujourd'hui assister à une renaissance de l'antisémitisme en France, sachant ce qui s'est passé, si vous voulez, en Pologne et en Allemagne à ce moment-là, c'est la preuve même qu'il y a une faillite de la raison. Et que l'information n'a pas été faite et que, comment dire, oui, l'information, le savoir sur l'horreur n'a pas été transmis. Alors je comprends, c'est-à-dire que quand on n'a pas forcément envie, si vous voulez, de plomber les nouvelles générations à chaque fois d'un malheur comme celui-là. Mais les adultes que nous sommes, et ceux qui étaient là avant nous et qui ont fait le job, ils l'ont fait et il faut les remercier parce que c'est un mal récurrent depuis très très longtemps dans l'histoire du monde. Donc il faut sans cesse remettre sur l'établi pour rappeler ces évidences. Et j'espère que les Miavois seront présents parce que je pense que c'est important pour eux à un moment donné d'avoir cet éclairage-là sur le monde et cette information. Je crois que ça donnera à tous les gens à qui ce film a été présenté, mais pas simplement le mien, là il s'agit du mien, mais à d'autres. Je pense que pour les gens, ça a été une source de réflexion permanente. Ils l'ont en eux et ils m'en reparlent quand ils me croisent.
Et quel accueil vous avez reçu justement au moment de tourner ce documentaire à Mio?
Ben, à Millau, je ne sais pas, parce que bon, je n'étais pas là au moment où il est sorti, j'étais à Paris. Non, j'ai beaucoup d'amis à Millau, donc ils m'en ont parlé. Mais ce qui était important, c'est que ça a déclenché ce film, si vous voulez, l'attention des Klarsfeld, qui du coup, son dessin s'est rendu à Millau. Du coup, ils ont fait un travail mémoriel, j'allais dire, moi je dirais un travail historique sur cette rafle. Et du coup, existe la rue du Champ du Prieur, pas loin d'ici, si vous voulez, une stèle en mémoire des Juifs qui ont été déportés et exterminés et qui étaient à Millau. Donc, vous savez, je crois que c'est important. Enfin, et à la fois, c'est peut-être insupportable quand on se sent mis à voix, que dans la ville qu'on aime, dans la ville qu'on a vécue, il y a nos ancêtres, peut-être, les plus âgés, ont rien fait, ou tous n'ont pas tout fait, parce qu'il y a des gens formidables qui se sont comportés pendant cette période-là à Millau. Et pas ceux qu'on croit souvent. Mais ils n'ont rien dit, ces gens-là. Mais que donc, je crois que ça, effectivement, on peut être tenté, quand on est Millau, de se dire, après tout, on n'a pas envie d'entendre ça, et puis qu'est-ce qu'on vient de nous dire que nous, les enfants des parents de cette période-là, on a à voir, etc. Ils ont en partie raison. On n'a aucun droit de leur dire qu'ils doivent porter le malheur du monde sur les épaules parce que les générations précédentes n'ont pas tenu leur place. On n'a aucun droit de faire peser ça sur leurs épaules. C'est inhumain, inconsistant. Ils n'ont rien fait, ils sont pour rien. Donc c'est même dégueulasse, je veux dire. Donc c'est pas du tout le propos, mais qu'ils le sachent. Donc je comprends que ça peut être dur pour eux, parce qu'ils ont le sentiment de trahir leurs parents, s'ils vont dire, ou leurs grands-parents, s'ils vont se montrer très favorables à ce genre d'initiative. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses. D'abord que tous les Biaouas n'ont pas été des salauds, c'est loin de là. Il y a eu des gens formidables. Et quant à moi, si vous voulez, je préfère sortir du lot les gens qui ont été formidables que pointer mon doigt sur les salauds.
Et pour conclure sur une question un peu plus générale, selon une étude publiée par l'ASCAM, le documentaire français est apprécié à l'étranger, même pour sa variété, sa grande diversité d'œuvres. Mais c'est vrai aussi que les espaces pour les documentaires se font de plus en plus rares, avec la concurrence par exemple des séries, des plateformes et des télévisions aussi qui préfèrent d'autres contenus aux documentaires des fois. Donc vous qui avez réalisé... de nombreux documentaires. Comment vous voyez le documentaire français aujourd'hui et peut-être son avenir?
Qu'est-ce qui dit ça, pardon?
C'est une étude publiée par l'ASCAM en 2015, il me semble.
Oui, mais l'ASCAM, c'est comme le syndicat patronal pour les patrons.
Après, je ne sais pas si c'est l'ASCAM qui a fait l'étude.
Non, mais moi, je connais bien l'ASCAM, j'en suis adhérent. Donc, c'est son métier de se plaindre. Parce que bon... faut bien revendiquer. Mais enfin, faut reconnaître quand même que j'ai jamais eu autant de films documentaires depuis que la télévision existe. Enfin, vraiment. Enfin, c'est un nombre incalculable de documentaires que vous pouvez avoir accès aujourd'hui quand vous regardez les chaînes de télévision. Enfin, c'est énorme. Donc, je crois, voilà, c'est leur boulot de le faire. Mais voilà, je pense que le documentaire français n'est pas en danger.
Et donc, vous pensez qu'il a encore un avenir devant lui?
Ah ben, je pense que non seulement il a un avenir, mais il a un présent aujourd'hui formidable. Les chaînes de télévision, si vous regardez la programmation des chaînes de télévision, il y a des documentaires partout. Chaque soir, si vous voulez voir un documentaire, vous pouvez le voir. Et après, vous voulez piocher Alina, qui est un trésor de films. Vous pouvez acheter des DVD, vous pouvez louer des fichiers. Enfin bon, c'est un accès. Non, franchement, il y a suffisamment de choses qu'on a à regretter pour ne pas avoir à charger, en inventer, qui n'en sont pas vraiment, quoi.
Merci, Daniel Lecomte.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Et donc, on peut rappeler le premier film de ce cycle organisé avec le Lions Club de Millau. Donc, ce sera le 17 octobre à 20h30 au cinéma de Millau avec le film Millau 42, Un été meurtrier. Et puis, merci Loïc.
Merci à vous.
Et on peut rappeler aussi que pour aller plus loin, donc, il y a une interview de Daniel Lecomte publiée sur le journal de Millau de cette semaine.
C'est ça.
Merci.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent les six superpositions de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les gars.
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf publicité.